un podcast France Culture.
À 3 mois de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, l'heure est venue d'ouvrir le livre des comptes. Quel est le poids économique de la machine olympique ? La compétition pourrait rassembler cet été jusqu'à 500 000 spectateurs par jour et plus de 3 milliards de téléspectateurs. Mais elle coûte cher, le budget des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 s'élève déjà à près de 9 milliards d'euros. Alors les Jeux financent-ils les Jeux selon la formule consacrée ? Sont-ils un coût ou un investissement ? Quel sera leur impact sur notre économie ? Du gain et des jeux, c'est le titre de notre série cette semaine. Et dans ce premier épisode, nous avons invité Pierre Rondeau. Avec nous à distance, professeur d'économie à la Sports Management School, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès, contributeur à l'ouvrage collectif « Tout n'est pas foutu » paru il y a quelques jours chez Stolar. Également avec nous en duplex de Limoges, Christophe Lepetit, économiste au Centre de droit et d'économie du sport, auteur d'une étude d'impact sur les retombées économiques des Jeux Olympiques qui paraîtra prochainement. Une émission préparée par Léa Sabourin, Diane Devancey, Anouk Milliot, Laurence Genepin, Léopold Thiévan et Inès Gender. Bonjour Pierre Rondeau et Christophe Lepetit.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Alors le budget officiel de Paris 2024 s'élève à 8,8 milliards d'euros précisément. C'est un peu plus que ce qui était prévu et cela pourrait encore augmenter, Pierre Rondeau.
C'est un peu plus, oui. Alors ça a augmenté, c'est quand même assez compliqué toujours comme d'habitude d'anticiper, de prévisionner, de prévoir un budget 7 ans avant un événement. Il s'est passé beaucoup de choses, on peut noter l'inflation, les conflits notamment en Ukraine, le confinement, les confinements et avec le Covid-19 qui ont provoqué un ralentissement des travaux, donc une demande d'accélération. Donc ça arrive assez régulièrement, que même quasiment à chaque fois, que les budgets olympiques soient dépassés entre le budget prévisionnel et le budget final. En moyenne, depuis 1960, on a un taux moyen de dépassement de 167%, donc c'est courant et commun. Il y a certaines Olympiades qui n'ont pas vu leur budget être dépassé et d'autres qui a littéralement fait exploser le budget. Là, en l'occurrence, vous l'avez rappelé, on a 8,8 pour l'instant. On pourra rentrer dans les détails, mais avec une distinction entre le budget du COJOP, et donc qui est lié à l'organisation, et de la Solideo, qui est liée à la construction des infrastructures. On est à 8,8. Et en 2017, lors de la candidature aux Jeux Olympiques, Paris 2024 avait prévisionné un budget de 6,7 milliards. Donc effectivement, on a dépassé. Là, on parle uniquement des coûts directs, parce qu'on pourra ensuite mettre en avant les coûts induits, les coûts indirects. Mais sur les coûts directs, on a effectivement un dépassement.
Évidemment, on va revenir sur cette question des coûts indirects, mais donc près de 9 milliards d'euros à l'heure actuelle, Christophe Lepetit. En effet, c'est un budget, une somme qui correspond à des dépenses d'organisation et d'infrastructure, c'est cela ?
Oui, tout à fait. Comme Pierre Rondeau l'expliquait juste avant, on a deux budgets en fait. On a le budget du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques, donc qu'on connaît sous l'appellation de Paris 2024. Ce budget, il est de 4,397 milliards d'euros, très précisément, donc 4,4 milliards d'euros si on arrondit. Et on a à côté de ça, ce budget de 4,4 milliards d'euros sert véritablement à organiser les Jeux, au sens premier du terme, accueillir les athlètes, accueillir les officiels, organiser les compétitions, etc. Et puis à côté de ça, donc on a ce budget de la Solideo, donc la société de livraison des ouvrages olympiques, qui est un organisme chargé de superviser la construction et ou la rénovation des infrastructures sportives et non sportives qui servent aux Jeux. Et là, on est également sur un budget de 4,4 milliards d'euros. Ces deux budgets sont effectivement, comme Pierre le soulignait, en augmentation, mais en augmentation qu'on qualifiera de modérée, de l'ordre de 15% pour le comité d'organisation, un petit peu plus pour la Solideo, de l'ordre de 40% si on prend l'intégralité du coût des infrastructures, 18% si on ne prend en compte que celle des Jeux, ce qui est relativement modéré, on rappelait, Pierre l'indiquait juste avant, sur un projet de 7 ans, de l'ordre de 15 à 20% d'augmentation, là où des éditions des Jeux ont fait x 7, x 4, x 3 parfois, donc que ce soit à Athènes, à Rio ou à Pékin. Donc on a une augmentation modérée, notamment parce que il y a un gros contrôle, une grosse pression qui est mise par l'État, par la Cour des comptes et par l'écosystème, ce qui permet de tenir le budget et d'éviter qu'il y ait de trop gros dérapages.
Et ce qu'il faut dire d'emblée, Pierre Rondeau, c'est que c'est un budget qui s'appuie en très grande partie sur des fonds privés.
Très grande partie, si on vous prenait uniquement le COJOP, effectivement, on est à 97% sur un financement privé, avec à la fois les droits TV, les recettes billetterie, marketing, merchandising, sponsoring. L'État n'apporte que, si je puis dire, 175 millions d'euros pour le budget total du COJOP. Et la Solidéo, on est sur quasiment 50% entre fonds privés, les promoteurs, et fonds publics, l'État et les collectivités, pour la construction de ces fameuses infrastructures. Donc oui, l'État... Encore une fois, toute chose égale par ailleurs, apporte peu, mais l'État derrière va garantir la gestion de la sécurité, des transports, la logistique touristique. Il y a autre chose, d'autres dépenses publiques que directement celles qu'on reconnaît pour les Jeux Olympiques de Paris. Voilà, tout le reste, ça reste imputable aux frais de l'État et directement, indirectement, aux frais du contribuable.
Et LVMH figure parmi les sponsors des JO de Paris 2024.
Ça coûte le prix... du rêve olympique, ça coûte le prix d'un grand partenariat avec une institution comme le CIO, ça coûte le prix de Jeux Olympiques à Paris qui sont absolument exceptionnels. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude chez LVMH de faire de grands partenariats de ce style. Nous sommes plutôt habitués à laisser nos maisons engager les discussions avec des événements, avec des égéries. Et au niveau du groupe, c'est quelque chose qui était nouveau pour nous. Je dois dire que on n'a pas l'habitude non plus de signer un chèque en blanc en faisant du sponsoring, bête et méchant, c'est pas trop le style de la maison non plus. Mais c'est surtout pour nous une grande fierté. On ne regarde pas vraiment l'argent qui sort, mais plutôt l'image de Paris, plutôt tout ce que ces Jeux Olympiques vont apporter à la France, plus même qu'à notre groupe. Finalement, on devient partenaire premium. Mais ce qui compte pour nous, c'est que ces Jeux Olympiques soient réussis.
Voilà, Antoine Arnaud, administrateur du groupe LVMH sur France Info le 25 juillet 2023, après la signature du partenariat avec le comité d'organisation de Paris 2024. Les sponsors ont beaucoup à gagner, en effet, en termes de renommée et d'image, Christophe Le Petit.
Oui, c'est évident que s'associer à ce type d'événement, quand on est un très grand groupe international comme LVMH ou d'autres, puisqu'il y a beaucoup de partenaires des Jeux sur le territoire domestique, ça, on parle des partenariats commercialisés par Paris 2024, c'est un enjeu marketing, un enjeu de communication, un enjeu de puissance pour l'essentiel. Ce ne sont pas voilà des groupes qui viennent faire de la communication extrêmement ciblée sur le plan social. Donc ça a été bien rappelé par l'interlocuteur d'LVMH qui était interviewé. Pour le groupe LVMH, qui est un groupe de luxe, voilà, il est important, il était important de s'associer au jeu, même si c'est l'un des derniers partenariats premium qui ont été signés, le dernier d'ailleurs qui a été signé par Paris 2024 et qu'il a été long à se décanter parce que on parle quand même de montants qui sont au-delà de 100 millions d'euros. Donc oui, c'est un enjeu de marketing, un enjeu de communication, de puissance, de s'associer au plus grand événement au monde et pas d'ailleurs pas uniquement un événement sportif.
Oui, LVMH est entré tard dans la danse, hein, juste seulement un an avant le début des JO. En réalité, Paris 2024 a eu du mal à trouver des sponsors, Pierre Rando.
C'est ce qui s'est dit d'ailleurs effectivement au niveau de la candidature avant même d'obtenir cette organisation en 2017. Paris avait déjà été candidat pour les Jeux de 2012 et ça avait été un échec. Dès 2013, une construction de candidature avait été menée par les organisations et par les instances sportives nationales. Et c'est vrai qu'entre 2012 et 2016, au sein des différentes directions sportives françaises, on notait la difficulté à attirer des partenaires premium, à attirer des annonceurs, à attirer des marques qui accepteraient de mettre de l'argent pour s'associer non pas à une organisation, mais avant tout à une candidature. Parce qu'on avait déjà éprouvé de nombreux échecs dans l'obtention de l'événement olympique. On avait perdu 2008, on avait perdu 2012. La France et Paris voulaient organiser. Ça faisait depuis 100 ans qu'on n'avait pas eu l'événement et avait du mal à obtenir cette organisation. Et il avait été noté, effectivement, sous la présidence de François Hollande, à l'époque où il fallait mener et conduire une candidature aux Jeux Olympiques, qu'un certain nombre d'entreprises, notamment les plus importantes côté au CAC 40, étaient quelque peu, non pas inquiètes, mais dubitatives quant à une candidature et une organisation d'un événement olympique. Donc oui, effectivement, avant 2017 et même après, puisque LVMH, il a fallu attendre un an qu'il reste encore un an avant l'événement pour qu'il signe un chèque de 150 millions d'euros, les grosses sociétés françaises française était peu, comment dirais-je, intéressée par l'idée de s'associer à Paris 2024.
Comment l'expliquer justement, Pierre Rondeau, pardon, alors, je vous interromps.
Là, est-ce qu'on pourrait aborder des thématiques ou des questions liées à la culture sportive en France, la culture des élites, quel est le lien ou l'attrait que peuvent avoir les élites sportives, enfin les élites économiques et intellectuelles avec le sport. C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi les sociétés du CAC 40 sont peu partenaires ou sponsors de grands clubs de foot ou de sport français. Il y en a, hein, mais elles sont rares comparativement à l'Allemagne ou à l'Angleterre. Je sais qu'au Japon, par exemple, pour les Jeux de 2020, en 2021, les Jeux de Tokyo, les sociétés japonaises étaient très nombreuses et très attirées pour s'associer à l'événement parce que c'était fier et il y avait une forme de volonté à la fois de fierté nationale et d'intérêt économique bien plus importante, en tout cas en termes de nombre, que les sociétés françaises et les partenaires français. Donc, est-ce que, là, voilà, si vous me posez la question, est-ce qu'on pourrait aborder des thématiques liées à l'intérêt culturel des élites pour le sport en France, et donc à remonter à la question, est-ce que la France serait ou pas une nation sportive, et est-ce que ces élites seraient attirées pour des intérêts autres que purement utilitaristes au sport? On peut se poser la question.
Et puis il y a aussi des entreprises dont le sponsoring a été refusé, c'est le cas de Total, dont la candidature a été rejetée par la mairie de Paris pour des raisons idéologiques, Christophe Le Petit.
Oui, pour des raisons d'association liées à une marque qui est, à tort ou à raison, je ne sais pas, mais identifiée comme l'une des principales pollueuses au monde. Donc effectivement, là c'est la maire de Paris, Anne Hidalgo, qui a pesé fortement pour éviter que Paris 2024 ne signe cet accord avec Total, accord de sponsoring. On parlait d'un sponsor premium, donc le plus haut niveau hein, dans la hiérarchie. Il y a trois niveaux dans la hiérarchie des partenaires de Paris 2024, et donc on parlait potentiellement d'un chèque de plus de 100 millions d'euros. Pierre évoquait 150 millions d'euros à l'instant pour LVMH, et effectivement à ce moment-là, la maire de Paris, qu'on sait très engagée sur ces sujets de transition écologique, a pesé de tout son poids pour éviter que cet accord ne se signe, et donc il ne s'est pas signé, mais ça a pu constituer probablement à ce moment-là un petit contretemps dans le programme de sponsoring de Paris 2024, qui malgré tout, peut-être pour revenir très très rapidement sur le point précédent, mais malgré tout s'est rempli, je crois, hein, d'après les informations que j'ai, relativement conformément au temps de passage, puisqu'il y avait entre janvier 2018, puisque c'est à peu près le moment où le comité d'organisation se constitue, et juillet 2024, date d'ouverture de la cérémonie des Jeux, il y avait des temps de passage pour savoir à quel moment on allait signer les partenariats. Je crois que finalement, les temps ont été plutôt respectés, et aujourd'hui, l'objectif est globalement atteint. Des partenariats se signent encore, mais on est quand même sur un niveau de plus de 1 milliard d'euros de partenariats qui ont été signés par Paris 2024.
Et vous partagez cette idée avancée par Pierre Rondeau, Christophe Le Petit, que peut-être l'élite intellectuelle et financière française ne considérerait pas vraiment le sport comme digne d'investissement ?
Je partage tout à fait le constat, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'on a peu d'entreprises du CAC 40 qui investissent en sponsoring, voire même dans la présidence ou dans la détention de certaines organisations sportives. Pierre a évoqué le sujet de clubs de foot. Aujourd'hui, vous avez par exemple une marque comme AXA qui n'intervient quasiment pas dans le sport au niveau national. AXA s'affiche sur mon maillot de Liverpool. Donc en fait, il y a effectivement, je pense, à la fois des réticences un peu culturelles, philosophiques, une crainte d'investir dans le sport, dans le sport en général, et puis le fait que parfois on a nos marques françaises qui vont aussi investir sur d'autres territoires, parce qu'il y a aussi des marchés qui sont peut-être plus porteurs que d'autres, notamment quand on parle de grandes entreprises internationales. Est-ce que c'est aujourd'hui en France qu'il faut investir ou à l'étranger? C'est une question qui peut se poser au moment de signer des chèques extrêmement conséquents.
Alors, on l'a compris, les sponsors sont essentiels pour financer les Jeux Olympiques et Paralympiques, et la billetterie également, ce qui explique, Pierre Rondeau, la cherté des places.
Oui, bien sûr, et il faut quand même le rappeler, vous l'avez dit, les Jeux financent les Jeux. En tout cas, le COJOP a un budget à 97% émanant du privé, et notamment de la billetterie. La billetterie, c'est 1,2 milliard. En tout cas, le COJOP et le CIO s'étaient fixés comme objectif d'atteindre des recettes billetterie de 1,2 milliard. Donc, de fait, si vous avez comme objectif de dépasser le milliard pour un événement de 15 jours, sans compter les Jeux paralympiques, vous devez de vendre des places, bien évidemment, assez chères. Le paradoxe, si vous voulez, c'est de mettre en avant, en termes de communication, d'afficher des jeux populaires, des jeux accessible, de rappeler qu'effectivement, c'est une réalité, il y aura 1 million de places à 24 euros. Et de rappeler, c'est une réalité, que la moitié des places coûte moins de 50 euros. Mais de fait, si vous rappelez cette réalité, 50% des places coûteront moins de 50 euros, eh bien, pour atteindre l'objectif d'1,2 milliard d'euros de recettes billetterie, inversement, vous vous devez aussi de fixer des places à 500, 600, 700, 800, 900 euros, 2700 euros pour la cérémonie d'ouverture. Là où on peut nuancer le propos, c'est de considérer que, oui, effectivement, ça peut choquer que des places soient si chères, mais de fait, elles ont été vendues. Dès lors qu'elles sont vendues, c'est un simple jeu d'offres et de demandes. Vous mettez des places à 600, 700 euros, les gens sont très intéressés par un événement comme les Jeux Olympiques, et au final, malgré la colère, malgré la déception, malgré les critiques, achète. Bien évidemment, si on avait constaté que les places ne se vendaient pas et qu'on n'arrivait pas à vendre des places à 600, 700, 800 euros, on aurait pu polémiquer, on aurait pu s'inquiéter et on aurait de fait réduit cette tarification, réduit le prix des places. Là, vous avez des gens qui ont payé 600, 700, 800 euros pour des épreuves d'haltérophilie, pour des épreuves d'escalade ou de skate, parce que voilà, il s'agit quand même, je vais le rappeler, des Jeux Olympiques. C'est pas le marathon d'un département quelconque français, ce sont les Jeux Olympiques, c'est l'équivalent de 56 Coupes du Monde organisées en même temps sur un même territoire. Voilà, vous l'avez rappelé, 500 000 visiteurs par jour, 15 millions de touristes au total en France, 3 milliards de téléspectateurs. Donc oui, ça coûte cher, mais c'est bien normal, c'est la première compétition sportive la plus regardée au monde. Donc il est bien normal de faire des places si chères, si je peux dire, et ce qui est normal au final, c'est que ce prix soit fixé par un jeu d'offres et de demandes, et quand elles sont vendues à 600 euros, il y a des gens qui acceptent de dépenser 600 euros.
Mais ces jeux ne sont peut-être en effet pas aussi accessibles et populaires que ce qui a été beaucoup répété depuis 2017. En réalité, c'est un événement privé extrêmement onéreux et c'est pour cela que les places coûtent cher. Christophe Le Petit, vous êtes d'accord également avec cela ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on se retrouve un petit peu, je pense, pris entre deux feux quand on est à l'organisation de ce type d'événement. C'est-à-dire qu'on a d'un côté une forme de pression qui vise à garantir une forme d'accessibilité au plus grand nombre et donc d'avoir des places qui soient relativement peu chères. Et c'est le cas, Pierre évoquait les places à moins de 50 euros, des places à 24 euros. Mais dans le même temps, on est pris à travers un deuxième feu de l'autre côté qui est celui de tenir le budget et d'un budget sobre. Et c'est vrai que pour avoir un budget sobre à 4,4 milliards d'euros, la sobriété s'entendant à l'échelle de ce que coûtent d'habitude les jeux, évidemment, il faut des recettes billetterie à 1,2 milliard d'euros et donc il faut vendre très peu cher certaines places et excessivement cher d'autres. Et donc on doit jongler entre ces deux objectifs d'accessibilité et d'atteinte d'objectifs commerciaux. Et c'est en cela qu'on arrive à cette politique de billetterie, tout en ayant quand même en tête qu'il y aura une billetterie populaire, assurée notamment par l'État et ou des collectivités territoriales, mais également par des sponsors qui distribueront un certain nombre de billets très accessibles, voire des billets gratuits. Alors évidemment, probablement pas pour la finale du 100 mètres ou pour les moments les plus prestigieux qui sont ceux qui se vendent très cher, mais il y aura quand même cette politique d'accessibilité-là. On aimerait bien sûr qu'elle soit beaucoup plus importante et que notamment des habitants qui sont au plus près des sites, en particulier en Seine-Saint-Denis, puissent avoir accès à la totalité des épreuves. Mais dans ce cas-là, il faudrait que quelqu'un paie, puisqu'il n'y a jamais rien de gratuit, il faut toujours que quelqu'un paie. Et donc, il faudrait que probablement là, des acteurs publics ou privés puissent prendre le relais, ce qui est partiellement le cas, mais pas forcément au niveau que de chacun ou d'aucun aurait souhaité.
Les jeux financent les jeux. Emmanuel Macron l'a encore répété. C'est un slogan et un argument assez ancien, je crois, Pierre Rondeau.
Oui, assez ancien. Après, toutes celles et ceux qui regardent et étudient depuis longtemps les Jeux Olympiques savent très bien que c'est un élément de langage, si je puis dire. C'est pas une réalité absolue. Certes, l'organisation peut se financer d'elle-même à travers les droits TV, à travers la billetterie, à travers les partenaires, le sponsoring, le marketing et le merchandising. Admettons, cela est vrai. Ce qui coûte très cher, c'est le structurel. Ce qui coûte très cher, ce sont les investissements colossaux, ce sont toutes les infrastructures sportives à construire, les stades, les gymnases, les arénas, les piscines, les bassins aquatiques, le village olympique. Et ça coûte très cher. Là, si je peux dire, l'argument de Paris 2024, et qui est une réalité comparativement aux autres Olympiades, c'est que ces infrastructures sont déjà présentes, ou alors elles sont quasiment toutes là. Ce qui va être construit de façon durable, finalement, ce n'est que le village olympique, l'Olympique, le bassin aquatique et l'aréna sportive. Donc au final, comparativement, je prends notamment le cas de Pékin, ça va coûter bien moins cher parce qu'on n'aura pas un stade olympique à construire. À Pékin, ils ont construit un stade olympique. Lui seul a coûté $1 milliard. Donc de fait, la facture, si vous mettez un par un des stades, des gymnases, des arénas, des piscines à construire, la facture augmente. Ici, pour le cas de Paris, les Jeux s'autofinancent en termes d'organisation. Vous avez raison et c'est vrai, et le président Macron qui le répète a raison si on s'arrête là. Les Jeux et l'organisation de ces Jeux s'autofinancent, mais pour les accueillir, il faut des infrastructures. Nous, on a la chance à Paris d'avoir déjà beaucoup d'infrastructures, le Stade de France, le Parc des Princes, Roland-Garros, Bercy. Donc au final, on n'a pas construit grand-chose. On pourrait revenir là-dessus, mais c'est le paradoxe, c'est de dire qu'on construit peu parce qu'on fait tout à Paris, mais comme on fait tout à Paris, on dérange les Parisiens, on a des problématiques de sécurité, de transport, donc on a d'autres coûts qui vont apparaître. Mais structurellement, si vous voulez, on va peu construire.
Donc quand même 70 ouvrages en France au total.
Oui, mais relativement et proportionnellement à ce qui s'est fait. Par exemple, je prends le cas de Rio, si vous voulez. Rio, ça a coûté très cher, plus de 36 milliards, mais on a tout construit et tout était aux abords de la ville, à 30, 40 kilomètres de la ville. Donc ça n'a pas dérangé directement, si je puis dire, les gens de Rio, mais ça coûtait beaucoup d'argent parce que quand vous me parlez des 70 constructions, ça, c'est du provisoire, c'est sur le Champ de Mars, c'est au Trocadéro, c'est aux Invalides. C'est pas des grandes, si vous voulez, c'est pas des grandes infrastructures qui vont coûter plus de 1 milliard. À titre de comparaison, si vous voulez, pour bien comprendre, le bassin aquatique de Londres a coûté 300 millions de livres. Le bassin aquatique de Saint-Denis a coûté 115 millions de livres. Il y a une différence d'envergure dans la construction. Certes, vous avez raison, elles existent, c'est 70, mais c'est pas dans la même proportion qu'ont été ou que ça a été dans les autres Olympiades et les autres Jeux Olympiques. Nous, à Paris, l'avantage est un inconvénient ou l'inconvénient est un avantage. On construit peu ou alors on construit de façon provisoire. Ça coûte peu d'argent, mais comme on construit dans Paris, ça dérange les Parisiens. Ça pose des problématiques de transport, de sécurité, de logistique. Quid de la vie au moment de l'événement avec les travailleurs parisiens et franciliens? Ça a posé beaucoup de problèmes. Mais là, d'un point de vue strictement économique, en termes de coûts, ça coûte bien moins cher que ce qu'ont été d'autres Jeux Olympiques.
Oui, il y a de plus en plus de structures éphémères. Est-ce que c'est une spécificité de ces JO de Paris 2024, Christophe Le Petit? Est-ce que c'est lié à la prise de conscience de ces éléphants blancs, tels qu'on les appelle, qui ont été créés, c'est-à-dire ces infrastructures qui sont construites pendant les grands événements sportifs, mais qui sont abandonnées par la suite?
Oui, alors c'est une spécificité française et des Jeux de Paris. En tout cas, ça se voit beaucoup plus pour notre édition. Et je pense qu'il faut, pour expliquer ça, se rappeler d'où on part. C'est-à-dire que Pierre évoquait tout à l'heure les échecs de Paris en 2008, puis en 2012, qui avaient particulièrement échaudé les décideurs, notamment politiques français, sur le fait de candidater à nouveau à l'organisation des Jeux. Et pour emporter la décision de candidater sur cette édition de 2024, donc dans la phase amont entre 2012 et 2016, il avait été garanti, vendu, promis le fait qu'il n'y aurait pas d'investissements colossaux et qu'il y aurait un budget relativement limité pour les Jeux. Et c'est vrai qu'il est important de rappeler que le budget d'organisation des Jeux, il est relativement stable désormais autour de 4 milliards d'euros parce qu'on a plafonné le nombre d'athlètes, parce que le nombre d'épreuves est plutôt limité maintenant, etc. Donc ce budget-là, il est globalement plutôt bien connu si vous n'avez pas évidemment au milieu une pandémie ou ce genre de choses. Mais ce qui est moins connu, effectivement, c'est le plan d'investissement que vous voulez réaliser quand vous accueillez des Jeux. Et c'est vrai que là, pour la candidature française et pour Paris 2024, il a été promis dès le départ, et cette promesse a été tenue, le fait de ne pas beaucoup construire. Alors il y a beaucoup d'ouvrages, mais il y a certains ouvrages qui sont plus ou moins importants en termes d'envergure, et on n'a pas beaucoup construit. Là où d'autres pays ont utilisé les Jeux pour rénover des aéroports, construire des autoroutes, prolonger des lignes de métro, et ce sont des investissements extrêmement lourds qui coûtent très cher. Et donc c'est vrai que nous, ça n'était pas le cas, et on n'a pas voulu se lancer dans une telle candidature pharaonique, et on n'est pas dans ce type d'organisation-là depuis que nous avons obtenu les Jeux. On est sur quelque chose de beaucoup plus modéré, On n'aura pas d'éléphant blanc, très clairement, puisque on n'a pas beaucoup de constructions à la fois sportives ou non sportives. L'aréna Porte de la Chapelle, le centre aquatique olympique et le village des médias, le cluster des médias, le village olympique. Donc il n'y aura pas d'éléphant blanc. Donc là, on était plutôt prémunis. Mais au-delà de ne pas avoir d'éléphant blanc, on ne voulait pas construire des choses qui ne seraient pas utiles sur le long terme. Et donc on a plutôt privilégié ces aménagements temporaires, Champ de Mars, Tour Eiffel, Versailles, etc., plutôt que des constructions en dur qui auraient eu une utilité peut-être pendant la période des Jeux, mais pas forcément une utilité post-Jeux. Et ça, c'est vrai que c'est ce qui a aussi garanti, un, le fait qu'il n'y ait pas eu de dérapage incontrôlé du budget, puisque ce sont souvent sur ces infrastructures que se passent les dérapages, et deux, le fait qu'on ait tenu cette promesse de candidature qui était d'avoir un budget relativement limité au niveau de l'organisation des Jeux.
Mais pour savoir combien ces Jeux vont coûter aux contribuables français, il faut prendre en compte tous les coûts.
Ok, quelles sont les conditions pour effectuer une palpation de sécurité sur une personne?
Il faut des gants.
Des gants.
Il faut qu'elle soit du même sexe.
Même sexe.
Je trouvais que c'était un job intéressant et ça me permettait aussi d'être à proximité des JO et de participer à ma manière à l'événement.
Eux, spécialement JO, ils ont 106 heures de formation. Ils ont une carte professionnelle de 2 ans. Ils peuvent pas faire autre chose que les événementiels, en fait.
Moi, je suis inscrit à Pôle emploi depuis une année. J'ai assisté d'abord à une réunion d'information.
Ceux qui ont rendez-vous à 9h30 sur l'atelier détection potentielle sécurité.
J'avais de la peine à trouver du travail à ce moment-là. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me lancer en sachant que c'est un domaine qui m'intéressait par ailleurs.
Et dans quel domaine ?
À l'électricien.
Bâtiments. Moi, j'étais dans le divertissement. Je voulais rester dans ce milieu-là. Donc,
présence obligatoire. Sous peine d'une possible radiation.
Je me pose quand même la question de pourquoi on me prend moi, parce que c'est pas quelque chose qui avait été évoqué. C'est vrai que les métiers de la sécurité, c'est pas vraiment ce que je visais.
Au fond, nous présentons des métiers à des personnes qui n'ont jamais imaginé y travailler. Le sujet n'est pas la catégorie des personnes, le sujet c'est vraiment est-ce que ce métier peut les intéresser, est-ce qu'elles peuvent s'y former et y travailler, et chacun peut y aspirer ou pas.
Voilà des témoignages recueillis par nos confrères de France Inter, Public Sénat et France 24. La facture ne prend pas en compte tous les coûts induits pour l'État, notamment les coûts de la formation de certains chômeurs pour rejoindre les rangs du personnel de sécurité, Pierre Rondeau.
Oui, bien sûr. C'est sûr que c'est toujours compliqué de mettre en avant la facture et la note finale, hein, le coût final. On en parle depuis tout à l'heure. On met en avant le COJOP, l'organisation. On met en avant la Solidéo, la construction des infrastructures. Mais vous avez raison. Il y a aussi tous les coûts induits, tout ce qu'on va dépenser au préalable en termes de formation, en termes de logistique, tout ce qu'on va dépenser au moment, à l'instant T, au niveau de la sécurité, tous les coûts de réhabilitation aussi qu'il y aura a posteriori après l'événement. Il y a beaucoup d'éléments qui sont à prendre en considération et à prendre en charge, mais qui sont difficilement mesurables. Hein. Quid de la formation ? Est-ce que j'ai payé il y a un an pour former des agents de sécurité ? C'est imputable directement aux Jeux Olympiques ? Ou alors même, je pourrais le considérer comme une forme d'investissement parce qu'à terme, ces gens-là ont été formés donc pour pouvoir tenir un métier qu'ils feront après l'événement. Donc c'est aussi considéré comme un investissement et non comme un coût. Donc c'est toujours compliqué de peser le pour et le contre sur combien coûtent réellement les Jeux Olympiques si je veux intégrer ces fameux coûts induits qui sont très difficilement mesurable. Il y a une étude récente hein, qui a montré, qui a jaugé, si je puis dire, donc c'est à prendre avec des pincettes, ou en tout cas à relativiser, parce que c'est toujours ex ante, donc on n'a pas une quasi-certitude dessus, mais qui estime que les coûts induits liés à la logistique, la sécurité, la formation, les transports, et tout ce que les Jeux Olympiques amènent et vont amener, on l'estime à 3 milliards d'euros. Donc au final, si vous avez 3 milliards d'euros de coûts induits plus budget COJOP, plus Solidéo, on est sur du 11 milliards d'euros au total, 11,8 milliards, 12 si on veut arrondir, et admettons qu'on ait encore des coûts qui augmentent d'ici août prochain, 12 milliards d'euros, voici le coût, ça serait le coût, je dis au conditionnel, des Jeux Olympiques de Paris. Mais voilà, pour reprendre le sens de votre question et du sujet du jour, serait-ce des coûts ou des investissements ? C'est toujours la même question. Quand on dépense 1 milliard pour former des gens, qui vont pas oublier leur formation et leur qualification après l'événement. Pour moi, c'est pas un coût, c'est un investissement.
Mais il y a aussi des primes, notamment, qui sont versées aux agents de la fonction publique, aux policiers. Là, c'est plus compliqué de les considérer comme des investissements.
Exactement. Mmh. Vous avez raison. Il y a des primes pour les policiers. Il y a aussi récemment les agents de la RATP qui ont réussi à négocier une prime entre 1300 et 2500 euros, pour travailler et pour augmenter les cadences de travail pendant les JO et pour renoncer à prendre des vacances. On sait que pendant les Jeux Olympiques, hein, vous avez 500 100 000 personnes en plus par jour, il y aura 30% en plus de métros qui vont circuler dans Paris. Évidemment, il faut payer, il faut mieux payer les agents de la RATP pour assurer cette logistique et cette offre de transport. Donc, alors oui, vous me direz que effectivement c'est pas un investissement, c'est un coût, mais je pourrais aussi vous rétorquer que si on améliore et qu'on assure l'accessibilité pour les publics, pour les touristes pendant l'événement, c'est aussi à terme une amélioration de notre image de marque pour un effet d'aubaine touristique, pour un effet réputationnel durable, avec des gens qui vont apprécier leur moment à Paris pendant l'événement et qui très certainement pourront revenir pour 2025, 2026, etc. Donc voilà, c'est, oui, Christophe, vous avez raison, c'est un coût, mais c'est aussi un investissement.
Je vais faire intervenir Christophe Lepetit sur ces coûts induits pour l'État, et notamment en termes de sécurisation de l'espace public.
Oui, alors peut-être plusieurs sujets. Hein. Effectivement, en termes de sécurisation, j'ai l'impression que parfois on a l'impression de découvrir là ces derniers temps qu'une partie des coûts de sécurité allaient revenir ou vont revenir à l'État. En fait, c'est quelque chose de très connu depuis le début, hein, depuis la phase de candidature. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux périmètres, il y a deux zones de sécurité. Il y a les zones qui vont être dans les sites olympiques, sur les sites olympiques et vraiment les abords immédiats. Et ça, c'est Paris 2024 qui a la responsabilité de cette sécurisation-là. Donc ça, c'est intégré au budget du COJO, mais bien sûr qui est la sécurisation de l'espace public au sens très large. Et ça, cette responsabilité-là, elle incombe à l'État. Et donc, effectivement, il va y avoir une mobilisation des forces de l'ordre au sens très large sur l'ensemble du territoire et bien sûr concentrée sur les zones qui vont accueillir les compétitions. Mais c'est quelque chose qui était connu et c'est quelque chose qu'on va chiffrer maintenant parce que ça a été rappelé. En fait, le coût qu'il faut imputer au jeu, c'est pas le coût total des agents de la fonction publique qui vont travailler sur la sécurité des jeux, tout comme c'est pas le coût total des agents de la RATP qui vont être mobilisés sur les jeux, puisqu'en fait ces agents-là, ils auraient travaillé même sans les jeux. Ce qu'il faut imputer comme un coût des jeux, c'est le surcoût, c'est-à-dire le montant de la prime qui va être versée aux fonctionnaires, aux agents de la RATP, multiplié par le nombre d'agents, et effectivement, c'est ce coût-là qu'il faut affecter au jeu. Donc il est bien important de préciser aussi ce qu'on entend par le coût des jeux, parce que d'un côté, on a des gens un peu BA, JO favorables qui vont vous dire ou qui vont chercher à minimiser tout ça, et puis de l'autre vous avez les détracteurs durs qui vont eux chercher à grossir très fortement le trait. Donc il faut trouver le bon équilibre pour pouvoir chiffrer véritablement ce coût et pouvoir le chiffrer au plus près. Ça sera fait parce que l'État, encore une fois, prend en charge un programme d'évaluation de certains aspects des jeux, et notamment il y aura une étude qu'on appelle coût-bénéfice qui permettra de prendre en compte tous les coûts et tous les bénéfices liés aux jeux, dont ces coûts-là. Donc ça sera fait. Donc on aura, après les jeux, une évaluation de ces aspects-là. Et peut-être un autre élément, peut-être sur le sujet des coûts de la formation, on parlait des agents de sécurité. Bien sûr que dans l'absolu, il faudrait prendre en compte ces coûts-là dans le coût des jeux. Il faut pas non plus totalement oublier dans quel contexte on s'inscrit. Les métiers de la sécurité, le secteur de la sécurité, comme beaucoup d'autres, sont des secteurs qui sont en extrême tension de recrutement. JO ou pas JO. Alors évidemment, pendant la période des Jeux, encore plus. Et donc c'est vrai qu'il y a des coûts de formation, de détection de candidats, d'accompagnement à des formations, mais qui sont des coûts qui vont aussi servir à la fois ces personnes-là, parce qu'on va remettre parfois des gens au travail, des gens qui sont parfois très éloignés du marché du travail, pas forcément que sur des métiers d'agent de sécurité, il y a beaucoup d'autres métiers, et puis ce sont des personnes qui derrière vont peut-être permettre de réduire ces tensions de recrutement, et donc vont permettre à des entreprises ou à des organisations qui ne sont pas sportives et qui n'ont rien à voir avec les Jeux, de trouver peut-être demain plus de main-d'œuvre, mieux formée, mieux qualifiée pour des métiers pour lesquels aujourd'hui la main-d'œuvre manque cruellement.
On va continuer à parler du coût des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et de l'impact de ces JO sur l'économie française. Mais d'abord, en 2012, l'hymne officiel des JO de Londres était une chanson du groupe Muse, Survivor. L'écouter. Race, life's a race, I'm gonna win, yes, I'm gonna win, and I'll light the fuse, and I'll never lose, and I choose to survive, whatever it takes, you won't pull ahead, I'll keep up the pace, and I'll reveal my strength to the whole human race, yes I am prepared to stay alive. Is mine, and I won't give in because I choose to thrive. Yeah, I'm gonna win. Survival de Muse sur France Culture. D'entendez-vous l'écho, le financement privé en forme olympique, c'est notre sujet. Aujourd'hui, les économistes Christophe Lepetit et Pierre Rondeau sont toujours avec nous dans cette émission réalisée par Françoise Le Floch et Jeanne Cherquefosse, avec l'aide de Denis Forger et mise en onde par Anthony Thomasson.
Entendez-vous l'écho?
Cette foule, cette ambiance, enfin public à ma hauteur.
Tiffany de Rocchini.
Au moment où je vous parle, nous n'avons une hausse hors inflation que de 13% du budget du COJOP et de moins de 3% de la Solidéo. À Londres 2012, c'était 200% d'augmentation du budget. Et donc je veux féliciter tous les gestionnaires du projet. On nous aurait dit que c'était impossible. Vous l'avez fait. En tout cas, on est en train de le faire, parce qu'on va maintenir la pression, évidemment, jusqu'à cet été. Mais bravo, parce que c'est un grand professionnalisme derrière, une formidable organisation, des choix faits à chaque instant. Mais nous avons tenu, et c'est une exemplarité, là aussi, de sobriété, qui, je pense, doit être soulignée, parce qu'elle doit nous aider à rendre ces jeux populaires.
Emmanuel Macron, le 23 janvier 2024, est-ce que les JO de Paris vont bien figurer parmi les moins chers de l'histoire, Christophe Lepetit ?
Oui, probablement, parce que encore une fois, je pense qu'il faut se rattacher à ce sujet des constructions. On construit peu, c'est un fait. Hein. On n'a pas de stade olympique, puisqu'on va utiliser le stade de France. On n'a pas d'infrastructure extrêmement lourde sur le plan du transport. On prolonge pas de ligne de métro, puisque les dépenses en lien avec le Grand Paris Express, par exemple, étaient prévues avant la candidature aux Jeux. Donc on n'impute pas ces coûts-là aux Jeux eux-mêmes. Et donc, de fait, on va être parmi les jeux les plus sobres, les moins chers. Je crois qu'on est dans le top 3 hein, sur les jeux de l'ère moderne et vraiment les jeux tels qu'on les connaît aujourd'hui, qui sont souvent qualifiés de gigantesques. Donc oui, on va avoir des jeux qui vont être d'un coût relativement modéré. Alors ça paraît beaucoup d'argent pour le commun des mortels, on parle quand même de quelques milliards d'euros, mais quand on replace ça dans l'histoire des jeux, on reste sur des coûts relativement limités et avec un budget tenu. Voilà, c'est rappelé par le président de la République dans son allocution, et c'est vrai que pour l'instant c'est le cas. Il faudra bien sûr vérifier que ce soit le cas jusqu'à la ligne d'arrivée.
Et pourquoi certaines villes qui ont accueilli les JO ont-elles réussi elles aussi à limiter le dérapage financier, comme Los Angeles en 1984 ou Atlanta en 1996, Pierre Rondeau?
Alors déjà un, parce qu'il peut-être il s'agit de jeux américains, et peut-être que les Américains à ce niveau-là auraient plus un intérêt porté à un financement privé qu'à un financement public, et que il y aurait pas, contrairement à, par exemple je prends pour le cas français, de Cour des comptes qui imposerait un devoir de surveillance budgétaire, qui en tout cas pour les Américains, qui serait imposé à ce devoir de surveillance pour respecter leur budget. En tout cas, pour Atlanta, il me semble que c'est une affaire effectivement de financement privé. On parlait des jeux Coca-Cola d'ailleurs pour les jeux d'Atlanta de 96. Donc un devoir de réussite économique sans que l'État ne vienne apporter une roue de secours et une garantie de financement. Pour les jeux de Los Angeles en 84, là où c'est intéressant, c'est que les jeux de cette période avaient été boycottés par le bloc Est à l'époque de la guerre froide, après le boycott des pays de l'Ouest pour les jeux de Moscou de 80, et après le déclenchement du conflit en Afghanistan avec les Russes. Et dans la mesure où il y avait le boycott des pays du bloc Est pour les Jeux de 84, il n'y avait eu qu'une seule candidature à l'organisation, en l'occurrence la candidature de Los Angeles. Et comme il n'y avait qu'une seule candidature, vous me direz que c'est un peu le cas similaire pour le cas parisien en 2024, une seule candidature, lors de la désignation de la ville hôte, la ville américaine n'a pas été en concurrence avec d'autres villes et n'a pas été obligée de vendre monts et merveilles ou de surenchérir pour obtenir l'organisation. Elle n'a pas été mise en concurrence directe avec telle ou telle ville européenne, asiatique ou sud-américaine. Elle n'a pas dû promettre au CIO de construire un deuxième stade olympique ou de construire un plus grand bassin aquatique. Donc de fait, elle a annoncé seule qu'elle aurait un budget à 2 milliards, elle a tenu ce budget et elle a assuré un budget à 2 milliards sans aucun dépassement.
Là où peut-être Rio, Tokyo ou Pékin avaient justement annoncé monts et merveilles, Christophe Lepetit ?
Alors c'est effectivement un élément très important, il faut revenir là-dessus. C'est-à-dire que souvent, les dérapages des budgets des jeux, on les voit quand il y a beaucoup de concurrence en phase de candidature. C'est-à-dire quand il y a beaucoup de villes qui potentiellement veulent accueillir les jeux. Pierre le rappelait il y a à l'instant, les jeux de 84, il n'y a pas de concurrence, ou très peu. Los Angeles sauve le CIO, littéralement, et impose des conditions très favorables, notamment sur le plan marketing, etc. 96, c'est les jeux de Coca-Cola, là aussi, programme marketing, fierté nationale, etc. Mais globalement, ce qui fait souvent déraper les factures, c'est quand il y a de la concurrence. C'est-à-dire que vous avez plusieurs villes qui vont candidater et qui vont chercher à avoir la mariée la plus belle possible, ou présenter la mariée la plus belle possible, si vous me permettez cette expression. Et donc, ces villes candidates vont promettre monts et merveilles avec des budgets très limités au CIO, qui du coup va choisir une des villes et va la désigner comme ville hôte des futurs jeux. Le souci, c'est que quand cette ville devient attributaire, elle est tenue parce qu'elle a promis. Et donc elle doit livrer ce qui a été promis dans la phase de candidature. Et c'est ce que Vladimir Andreev, un économiste du sport très connu, a théorisé sous la forme de la malédiction du vainqueur de l'enchère dans le cadre des jeux. C'est la malédiction du vainqueur de l'enchère, c'est pas Vladimir Andreev, mais dans le cadre des jeux, c'est lui qui l'a appliqué. C'est-à-dire que le vainqueur de l'enchère, le vainqueur de la course au jeu, est tenu de livrer ce qu'il a promis. Et donc, c'est là que les factures très souvent dérapent, parce que finalement, les budgets qui ont été présentés dans les phases de candidature, ils sont très largement sous-évalués et ils dérapent parce qu'il faut tout livrer. Et donc, c'est là qu'il y a des dérapages et une malédiction.
Et parce que ces factures dérapent, les jeux ne sont plus rentables. C'est une question évidemment compliquée, cette question de la rentabilité. On se demande quelles seront les retombées économiques des JO de Paris. Et le fait est que évaluer ce que la compétition peut rapporter à l'économie française, c'est une tâche qui est extrêmement ardue, Christophe Le Petit.
Oui, alors il y a rentable, il faudrait se poser la question de rentable pour qui ? Rentable pour le CIO, c'est systématique. Et c'est important de rappeler que d'ailleurs le CIO est une association et que la rentabilité des jeux permet de servir le mouvement olympique et le mouvement sportif international dans le cadre des programmes de solidarité. Donc la rentabilité pour le CIO, elle est systématique dans le cadre des jeux. Effectivement, on s'intéresse souvent à la question de la rentabilité pour le pays hôte et pour l'économie. Alors attention, effectivement, peut-être deux sujets. Il y a le sujet de l'impact économique. L'impact économique, c'est la comparaison entre deux situations de l'économie française ou de l'Île-de-France. Nous, nos travaux portent sur l'Île-de-France. Entre deux situations, une situation où vous n'avez pas les jeux et une situation où vous avez les jeux. Et vous regardez le différentiel, qui peut être positif ou négatif, entre ces deux situations. C'est ce qu'on appelle l'impact économique. C'est pas tout à fait la question de la rentabilité. C'est-à-dire que ça n'a pas grand sens de comparer ce montant d'impact économique au coût des jeux. Parce qu'en fait, la rentabilité, il faudrait prendre tous les coûts, et on en a parlé largement dans cette émission, les coûts directs, mais aussi les coûts indirects et les coûts induits, mais aussi tous les bénéfices. Les bénéfices économiques, qui peuvent être mesurés ou approchés de façon assez large par la notion d'impact économique, mais aussi les coûts et les bénéfices sociaux des jeux, donc tout ce qu'on met derrière le vocable d'héritage, tout ce que ça peut permettre en termes d'insertion sociale, d'inclusion, de développement de la pratique sportive, et donc qui dit pratique sportive dit potentiellement, si les effets se produisent bien, moins de personnes en mauvaise santé, donc des économies pour le système de santé. Et donc c'est ça en fait la rentabilité des jeux. Et ça c'est difficile à évaluer. Malgré tout, ça va être fait, et c'est à souligner encore une fois par l'État qui donc dans le cadre de son programme de 13 études va réaliser ce qu'on appelle une étude coût-bénéfice, qui est très différente d'une étude d'impact économique. Et cette étude coût-bénéfice, qui sera réalisée et qui viendra ponctuer le programme de 13 études, permettra de conclure ou pas à la rentabilité finale des jeux, puisqu'elle intégrera tous les coûts, mais aussi tous les bénéfices.
En l'occurrence, ce à quoi on s'attend, c'est à un effet macroéconomique de ces jeux, mais un effet sur la croissance qui devrait être limité, Pierre Rondeau.
Ah oui, oui, bien sûr. Et d'ailleurs, il me semble que Christophe Le Petit et le CDES ont mis en avant, à travers différentes études, la question des retombées économiques et des bénéfices attendus de ces jeux. Au niveau macroéconomique, un gain pour la croissance, et donc là pour la croissance globale et pour l'ensemble de l'économie française, ça reste un épiphénomène. On parle de chiffres à plusieurs milliards, effectivement, c'est beaucoup d'argent, mais comparativement au total du PIB, quand on parle de 6 milliards de retombées économiques, quand on parle des retombées économiques de 5 à 10 sur plusieurs années, en termes macroéconomiques, pour le PIB, pour la croissance nationale, ça reste dérisoire, ça reste petit, ça reste peu comparativement à tout le reste. Voilà, les Jeux Olympiques, certes, c'est d'envergure internationale, c'est beaucoup regardé, beaucoup apprécié, très populaire, largement valorisé, valorisable. Maintenant, en termes de retombées économiques pour la croissance en tant que telle, hein, d'un point de vue macroéconomique, on est vraiment sur sur un épiphénomène.
En revanche, certains secteurs devraient bénéficier de ces retombées économiques, Christophe Le Petit, on pense par exemple au BTP.
Oui, alors Pierre évoquait une étude qu'on avait menée en phase de candidature des Jeux, donc qui évoquait un impact économique pour la région Île-de-France, hein, c'est important de le préciser, et sur une période de 18 ans, qui allait de 2017 à 2034, qui s'établissait entre 5,2 et 10,7 milliards d'euros. Et donc effectivement, c'est des montants qui peuvent paraître gros en valeur absolue, mais quand vous le rapportez au PIB de la région Île-de-France, qui pèse un tiers du PIB français, ça reste relativement limité, c'est pas extrêmement structurant. Et pour autant, il y a malgré et tout des vainqueurs des jeux, des secteurs qui bénéficient de certaines des dépenses. Il n'y a pas beaucoup de construction, certes, mais on parle quand même d'un montant de 4,4 milliards d'euros. Donc, il y a eu ici des entreprises du BTP, qu'elles soient très très grandes, hein, les grandes majors du BTP, mais aussi des TPE-PME qui ont travaillé sur des chantiers des jeux et qui ont donc pu bénéficier là directement de l'apport économique des jeux pour travailler sur le centre aquatique, pour travailler sur le village olympique et paralympique ou pour travailler sur le cluster des médias. Tout comme dans la filière événementielle, il y a aussi bien sûr des bénéficiaires, puisque accueillir les jeux, ça va faire fonctionner cette filière événementielle avec toutes les entreprises qui peuvent y travailler et qui contribuent à l'organisation des jeux en soutenant le comité d'organisation de Paris 2024 dans la livraison des épreuves.
En revanche, du côté du secteur du tourisme, c'est plus compliqué de savoir si les JO sont une bonne nouvelle ou non, Christophe Le Petit.
Et parce que il y a ce qu'on appelle un effet d'éviction qui se produit de façon assez classique sur cette organisation des jeux. Donc il faut bien sûr intégrer cet effet d'éviction touristique, tout comme il ne faut prendre en compte que les spectateurs qui viendront de l'extérieur d'un territoire de référence, donc soit des spectateurs étrangers si on fait une étude d'impact national, ou des spectateurs français et étrangers mais qui ne résident pas en Île-de-France si c'est une étude d'impact au niveau francilien. Mais effectivement, à l'inverse, s'il y a beaucoup de personnes qui vont venir pour les jeux, il y en a d'autres qui vont peut-être être découragé de venir, notamment parce que les tarifs hôteliers vont exploser, ont déjà explosé, puisqu'on a un secteur là qui pense qu'il va pouvoir se nourrir un petit peu sur la bête des jeux, si je puis me permettre, et donc qui augmente des tarifs en faisant x4, x5 ou x10 par rapport à une période normale. Il va y avoir une saturation potentiellement des infrastructures de transport, certains sites qui ne seront pas ou peu accessibles, et donc des visiteurs traditionnels qui seraient venus à Paris vont soit avancer ou reculer leur séjour, et dans ce cas-là, c'est un moindre mal, puisque c'est un déplacement temporel de dépenses. On va dépenser avant ou on dépensera après les Jeux, mais au final, on dépensera quand même. Soit ils vont annuler purement et simplement leur venue, et plutôt que d'aller à Paris à l'été 2024, ils iront à Los Angeles ou à Pékin pour prendre des villes qui ont été récemment organisatrices des Jeux. Et donc, il faut prendre en compte cet effet d'éviction. L'un dans l'autre, de toute façon, c'est sûr que la ville de Paris est une ville qui était déjà extrêmement touristique et attrayante sur le plan touristique, et donc effectivement, ça n'est pas pour cet aspect-là qu'on accueille les Jeux. De toute façon, ça ne sont pas pour des éléments ou des arguments économiques qu'on accueille les Jeux. C'est pour beaucoup d'autres raisons, mais ça n'est pas évidemment la justification qu'il faut avancer.
En tout cas, le syndicat des tours opérateurs, le CETO, a déjà annoncé qu'il enregistrait pendant la période des Jeux Olympiques, entre le 26 juillet et le 11 août, un petit fléchissement de réservations touristiques par rapport à d'habitude. Pierre Rondeau, sur cet impact sur le secteur touristique.
Oui, voilà, mais effectivement, ça a été rappelé par Christophe Le Petit, il y a ce fameux effet d'éviction, et on constate d'ailleurs en direct, et vous venez de le préciser, il y a un fléchissement des réservations, c'est que les gens, en tout cas, Paris est déjà la ville la plus touristique du monde, donc Paris accueille déjà, des touristes en temps normal, et dans un certain nombre, très certainement par peur, par inquiétude de l'événement, on nous annonce les transports en commun bondés, des QR codes dans certains quartiers parisiens. Peut-être que certains touristes ne vont tout simplement pas faire le déplacement. Il y aura ce fameux effet d'éviction, un effet nul finalement entre les gens qui vont venir pendant l'événement et qui vont consommer pendant l'événement et d'autres qui ne vont pas faire le déplacement, qui ne vont pas consommer, pas dépenser. Donc soit on aura un effet nul, aucun impact touristique, soit un effet négatif. Mais en tout cas, pour l'instant, vous l'avez précisé, on n'a pas un effet d'aubaine touristique pour l'événement des Jeux Olympiques.
Et donc si les pays hôtes se plient en quatre pour accueillir les JO, c'est moins pour l'impact sur l'économie que ces Jeux pourraient avoir, mais pour les gains symboliques ou plus largement pour les bénéfices non monétaires, Christophe Le Petit ?
Oui, je pense pas qu'il faille parler de gains non symboliques. Je pense qu'il faut remettre les Jeux dans le contexte et bien expliquer pourquoi on les accueille. On accueille les Jeux parce que la France, dans la compétition internationale que se livrent certains États, certaines villes, et donc Paris ici, ont besoin de montrer que nous avons, notre pays et la ville de Paris sont capables d'organiser des Jeux, sont capables d'accueillir le monde, pour prendre un vocable cher à Tony Estanguet. Et donc c'est une compétition, il faut utiliser l'aura médiatique des Jeux pour démontrer ça. Donc il y a des enjeux géopolitique, politique et géopolitique, si je puis dire. Et puis il y a, et bien sûr, et c'est très très important, et c'est d'ailleurs ce qui devrait concentrer toutes les énergies dès les phases de candidature, il y a ce qu'on appelle l'héritage. Et donc c'est de savoir au service de quelle cause non économique, mais qui au final génère des effets économiques qu'on peut chiffrer, on met l'accueil des Jeux olympiques et paralympiques. Et donc on va parler de développement de la pratique sportive, et donc il faut partir très tôt pour pouvoir être en capacité d'avoir un effet véritablement sur la pratique, qui ne s'est pas démontré de façon systématique, bien au contraire, dans les éditions passées. Il faut pouvoir travailler sur la question de la requalification urbaine, de la requalification territoriale, voilà, sur les zones comme la Seine-Saint-Denis, qui sont des départements très jeunes, mais qui souffrent de beaucoup d'inégalités, de beaucoup de difficultés. Comment les Jeux peuvent contribuer à renforcer la mixité sociale, à développer même la mixité sociale dans des zones qui n'en ont pas beaucoup. Donc, ce sont ces éléments-là qu'il faut travailler dès la phase de candidature, qu'il faut garder en tête tout au long de l'organisation, et qui génèrent au final ce qu'on appelle un héritage. Si vous ne le faites pas très tôt et si vous ne fédérez pas toutes les énergies de toutes les parties prenantes autour de vous, vous avez le risque d'accueillir les Jeux, de dépenser parfois beaucoup d'argent pour au final avoir des effets extrêmement limités. Et donc c'est un très très important, et il faut souligner sur ce plan-là que Paris 2024 avait mis en place ce qu'on appelle une stratégie héritage, impact et héritage dès la phase de candidature, qui a été suivie d'effets pendant la phase d'organisation des Jeux. Et il y a des programmes qui seront légués, et il faut espérer que l'investissement qui a été impulsé puisse se confirmer dans le temps pour véritablement avoir des effets structurants de long terme, ce qui est la définition même de l'héritage.
Oui, si les Jeux sont des accélérateurs pour, par exemple, augmenter la pratique sportive, in fine, ça a aussi un impact sur l'économie, Pierre Rendeau.
Ah oui, bien sûr. Il y a une étude, je peux vous citer par exemple une étude récente de l'OMS qui indique que si vous mettez 1 million de personnes sédentaires à la pratique sportive régulière, vous avez un effet multiplicateur de 250 millions d'euros par an en termes d'économie sur les dépenses de santé, de lutte contre l'obésité, la sédentarité, les maladies cardiovasculaires. Donc 1 million de personnes mises au sport, c'est 250 millions d'euros d'économie réalisées par an à minima. Donc là, effectivement, en termes d'héritage sur la pratique sportive et au-delà de la pratique, de la valorisation intrinsèque du sport en France, ça fait partie effectivement des éléments à mettre en avant pour les Jeux Olympiques. Voilà, le sport est la grande cause nationale du gouvernement, et le président Emmanuel Macron cherche effectivement à faire beaucoup d'efforts sur la pratique sportive, notamment à l'école, avec la demi-heure de sport par jour imposée dans les établissements scolaires. Donc oui, il y a des éléments à ce niveau-là qui sont valorisés, valorisables, et qui sont chiffrables effectivement, comme par exemple pour la question de la sédentarité, son coût à minima serait estimé à 650 millions d'euros par an pour toutes les conséquences en matière de santé, d'obésité, de dépression, de maladies cardiovasculaires. Donc il y a vraiment un élément à mettre en avant, et Christophe Le Petit l'a rappelé, ce n'est pas parce que vous avez les Jeux Olympiques que de fait vous mettez les gens à la pratique sportive. Il faut qu'il y ait, alors il y a une dichotomie entre sport qui se pratique et sport qui se regarde, et il faut vraiment qu'il y ait une impulsion de la part des pouvoirs publics pour que des Jeux Olympiques, on aboutisse à terme, dès 2025, à une pratique sportive du quotidien. Et ça doit être fait. C'est pas uniquement le jeu facile. Vous avez les Jeux, les gens pratiquent un sport. On a les Jeux, mais ensuite, à travers des politiques publiques, des politiques d'impulsion de la pratique sportive, vous devez mettre les gens au sport. Et en plus du bien-être que ça procure, il y a aussi des retombées économiques qui sont chiffrables et qui sont certaines.
Un dernier coup qu'il faut prendre en compte dans ces Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, Christophe Le Petit, c'est le coût environnemental.
Oui, oui. Alors bien sûr, il y a les aspects environnementaux. Donc là, l'objectif de Paris 2024, c'est de réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre par rapport à Londres. Donc c'est un objectif qui est déjà ambitieux et il faut être très ambitieux sur ce sujet-là, puisque de toute façon, on sait que globalement, il faudra réduire la facture environnementale de ces grands événements sportifs internationaux, qui dans leur format actuel sont probablement condamnés à plus ou moins brève échéance. Donc il faut bien sûr travailler sur ce sujet-là, tout comme un autre coup au-delà du sujet environnemental devrait être pris en compte, c'est aussi la contribution bénévole qui est amenée par les 45 000 volontaires. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait valoriser. Mais oui, évidemment, sur la partie environnementale, il faut chercher à faire plus, à faire mieux, très vite. C'est ce que veut faire Paris 2024 et ce que devra faire Los Angeles, ce que devront faire Brisbane, qui sont les deux prochaines villes hôtes des Jeux en 2028 et 2032.
Et on va continuer à se demander toute cette semaine qui sont les gagnants et les perdants de cette compétition. Merci beaucoup Pierre Rondeau et Christophe Le Petit d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. Christophe Le Petit, je rappelle que vous êtes économiste au Centre de droit et d'économie du sport. Pierre Rondeau, professeur d'économie à la Sports Management School. Et il y a sept ouvrages collectifs auquel vous avez participé, Pierre Rondeau, Tout n'est pas foutu, évidemment, comme le foot, paru il y a quelques jours chez Solar. Merci également à Maximilien Bousquet de France Bleu Limousin qui a assuré ce duplex.
Off the ground, put my crown back on. I'm nimble as a cricket and taller than a redwood tree. Brighter than a daffodil, quicker than a bumblebee. You can try to stop me, I'm not afraid to tumble or to fall. You can try to stop me, these sticks and stones will never break.
La fin d'Entendez-vous l'écho. Un grand merci à tous d'avoir été avec nous. La découverte musicale du jour, c'est Mountain Goat, le nouveau titre du guitariste, chanteur et compositeur franco-américain Nick Morrison. Demain, des athlètes aux travailleurs. Qui sont les perdants de la fête? Nous posons la question à Jade Lindart et Sébastien Fleuriel. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France. On vous attend également sur X, sur le compte d'Entendez-vous l'écho. Yourself.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Se préparer au grand oral du bac, prendre la parole en public, défendre ses arguments lors d'un débat, déclarer sa flamme. Bien parler et savoir se faire entendre, ça s'apprend.
J'essaye de transmettre par des livres ou par des enseignements ce que j'ai appris en matière de prise de parole en public.
Ma parole, entraînez-vous à l'art de bien parler avec Bertrand Perrier, réalisé par François Test sur franceculture.fr et l'application Radio France.
La science CQFD.
Natacha Triou.
Ce lundi, et en partenariat avec l'INSERM, un enjeu de santé publique. En France, toutes les 10 minutes, un enfant naît avant son terme. Un bébé sur 10. Comment améliorer les soins pour ces enfants, et notamment pour les grands prématurés? Quelles sont les causes de ces naissances en avance, et quelles en sont les conséquences pour l'enfant et pour la mère?
La science CQFD, du lundi au jeudi à 16h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Merci d'écouter France Culture, il est tout juste 15h et c'est l'heure de retrouver Marie Richeux pour le Book Club. Bonjour Marie.
Bonjour Tiffaine.
Je vous retrouve demain.
Exactement, merci beaucoup Tiffaine, bon après-midi.
Bonne émission.